Sim. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ça toujours mal, ça entendu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été critiqués pour votre façon, pour les choses qui relèvent de votre caractère, de votre façon de faire, de votre façon d'être? Est-ce qu'il y en a qui ont été déjà critiqués dans ce sens-là? Faudrait presque dire, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore été critiqués dans ce sens-là? Et s'il y en a un qui lève la main, c'est qu'il n'a pas encore commencé le ministère, et encore, c'est qu'il n'a pas trop écouté ce qu'on a dit à son sujet. Nous avons beaucoup parlé jusqu'ici de l'épreuve, et en s'axant le plus souvent sur une certaine façon d'être éprouvé, un certain type d'épreuve. C'est vrai que mes remarques hier après-midi concernaient l'épreuve dans un sens général, mais c'était davantage par rapport à la souffrance qu'on peut vivre parce qu'il nous arrive quelque chose comme une maladie, comme enfin, ce genre d'épreuve. Et j'aimerais cet après-midi réfléchir ensemble à d'autres aspects de l'épreuve, et notamment à des aspects qui sont liés au caractère du responsable spirituel. J'aimerais qu'on parle un peu de ce caractère. Mais pas dans le sens qu'on le fait d'habitude. Parce que vous avez certainement entendu, comme moi, un certain nombre de choses sur le caractère de l'homme de Dieu, sur le caractère du serviteur de Dieu. Et on dresse un portrait tellement extraordinaire. Tac, tac, tac. Et au fur et à mesure que tu entends cela, au lieu de dire « Ouais, oh là, ça m'inspire », plus que tu entends, plus tu dis « Eh bien alors, eh bien alors, eh bien alors. Eh bien pour finir, je comprends que ça ne va pas très bien parce qu'en fait, je ne suis rien de tout ça. Et qu'à la fin, ou bien on décide que j'arrête tout parce que je ne suis pas qualifié pour ça, ou bien on se dit, il va falloir que je fasse un drôle de travail pour cacher à tout le monde que je ne suis pas du tout ça. Hein. Parce que la réalité est que il y a un caractère, enfin, ce sont des traits qui se retrouvent en général. Bien sûr, on fait le tour de la salle, on découvre des gens de caractères assez différents. Mais il y a quand même certains traits qui se retrouvent chez le serviteur de Dieu, chez le leader, comme on dit, pour prendre ce mot bien français, spirituel. Il y a certains traits de caractère qui s'y retrouvent. Et qui joue dans ces questions d'épreuve, souvent en étant à l'origine de certains aspects de l'épreuve, et notamment la crise de vocation. Et la crise de vocation peut être liée à beaucoup de choses, mais quand elle vient, c'est difficile à vivre. Et je pense que tous ceux qui sont dans le ministère depuis un certain temps, on est passé par là. Moi, je suis passé par là en tout cas. Je me demande s'il y en a ici qui ne sont jamais passés par là. J'ai beaucoup apprécié ce qu'Alain a partagé ce matin sur la réaction de Nicolas quand il a dit « J'arrête le ministère, j'arrête tout. » Et Nicolas a dit « Si tu peux. » J'ai beaucoup apprécié. Ça m'apprend tout à nouveau là. La sagesse spirituelle de Nicolas, qui est déjà un frère que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il a compris que, quelque part, nous sommes dans le ministère par vocation, parce que le Seigneur nous appelle, et pourtant, on a été tenté, en tout cas, d'arrêter presque tous, à un moment ou à un autre. Et j'aimerais réfléchir à certains aspects de ce caractère qui fait un gars qui va être utilisé, une femme qui va être utilisée dans l'œuvre du Seigneur. Parce que même si on est tous différents, d'une façon générale, ce sont des gens assez dynamiques, assez décidés, qui savent ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle une personnalité forte. Je me rappelle encore bien de Jean-Jacques Dubois qui a dit un jour dans une conférence, je ne sais plus où, mais il a dit, nous parlons de nos personnalités fortes, parce qu'on n'aime pas parler de nos sale caractère. Alors, et je dirais même, c'est vrai qu'il y a des aspects de cela, mais ce n'est pas forcément un sale caractère. Mais c'est un caractère qui n'est pas toujours facile à vivre. Et qui n'est pas toujours facile à vivre pour les autres, mais qui n'est pas toujours facile à vivre pour soi-même. Vous ne pouvez pas imaginer, ça va peut-être vous soulager d'apprendre cela, parce que vous avez peut-être souhaité la même chose aussi, pour moi, mais combien de fois j'aurais voulu être autre chose que ce que je suis. Peut-être que vous aussi, en me connaissant, en me fréquentant, vous avez souhaité que je sois autre chose que ce que je suis. Surtout les frères comme Gilbert, qui m'ont... Il a eu à me diriger pendant des années, et puis bon, parfois je ne suis pas le plus maniable. Et c'est rare que les gens qui sont efficaces dans le ministère soient des gens extrêmement maniables. C'est rare. Parce qu'il y a une sorte de tri qui se fait, et les gens qui sont prêts à se mettre sur le devant de la scène, ben, c'est les gens que le Seigneur a suscités pour cela, il leur a donné le bagage nécessaire pour résister malgré un tas de pressions et d'attaques et de choses qui sont là, et c'est bien. Mais ce même caractère nous joue des tours. Souvent, j'ai fait des études assez intéressantes qui m'ont bien éclairé sur la question des qualités et des défauts dans le caractère. Et je suis arrivé à une conclusion étonnante. C'est que je parle de moins en moins dans les traits de caractère. Je ne parle pas des mauvaises choses que nous faisons. Tout à fait autre chose. Hein. Mais dans les traits de caractère, je parle de moins en moins des défauts et des qualités. Car je constate de plus en plus que chaque trait de caractère a ses avantages et ses désavantages selon les contextes. Et justement, dans une conférence de formation pour les responsables, en essayant de les faire prendre connaissance de certaines des implications de cela, j'avais fait un exercice où au tableau j'avais tiré un trait au milieu, d'un côté j'ai marqué défaut et d'autre côté qualité, puis j'ai demandé aux gens de citer soit des défauts soit des qualités, comme ça, allez citer, tac 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 tac. Alors, on avait du côté qualité, patient, doux, gentil, etc., et puis du côté défaut, têtu, enfin un tas de choses comme ça, plein de qualités, plein de défauts. Et puis j'ai pris quelques exemples dans les qualités. Voilà les qualités. Et j'ai expliqué en quoi ces qualités, selon les circonstances, peuvent être des défauts. La douceur. C'est bien d'être doux. Attends, la Bible parle de la douceur. Hein. Pourtant, il y a des situations qui demandent une intervention musclée. Quand Dieu a besoin d'un Élie, il ne suscite pas un Élisée. Pourtant, à ma connaissance, au moins dans les textes de l'Écriture, on n'a jamais accusé Élie d'un excès de douceur. Hein. Et c'est vrai que ça devait être quelqu'un de bien plus difficile à vivre qu'un Élisée. Mais il correspondait à un besoin particulier sur le moment. Ce qui veut dire que dans certaines circonstances, ses qualités peuvent être des défauts. Puis j'ai pris le côté défaut. Toujours dans les traits de caractère, pas dans les mauvaises choses que nous pouvons faire à cause de notre caractère, qui permettent effectivement une séparation en défauts et qualités. Là, il n'y a aucun problème. Mais dans les traits de caractère, en montrant comment ces défauts, selon les circonstances, peuvent être utiles. Pour vous donner un exemple de cela, c'est une qualité d'être tenace. C'est un défaut d'être têtu. Quelle est la différence entre les deux? Ben c'est simple. Si tu persistes, malgré tout ce qu'on peut te dire, dans quelque chose, malgré tout ce qu'on fait pour essayer de te faire changer d'avis, tu persistes dans la chose, et que je suis d'accord et que tu as raison, c'est que tu es tenace. Mais si tu fais la même chose et que j'estime que tu as tort, c'est que tu es têtu. Mais en fait, c'est le même trait de caractère. C'est celui qui est convaincu de lui. Cette même Ce même trait de caractère peut être un avantage par moment et nous jouer des tours énormes par moment. Et le caractère d'un serviteur de Dieu a ses avantages et ses désavantages. Et le tout, c'est de soumettre tout cela au Seigneur pour qu'avec ce que nous sommes, nous puissions être utilisés par lui. Et c'est ce que j'aimerais faire, c'est faire quelques réflexions sur le caractère qui se retrouve souvent et comment, avec ce caractère, pas en cherchant à être autre chose que ce qu'on est, mais comment nous pouvons vivre ce caractère, reconnaissant certains des risques inhérents dans ce caractère. Des choses qui peuvent nous jouer des tours si on s'y prend mal. La première chose que j'aimerais faire ressortir, c'est que nous sommes normalement des gens assez motivés. Il faut espérer. Des gens passifs qui sont là en disant « Bon, j'accepte la vie comme elle vient. » Parfois, c'est des gens bien. Heureusement qu'il y a certains comme ça. Ce sont des régulateurs qui adoucissent la société. Mais ce n'est pas les moteurs ni de la société, ni de l'Église. Des gens motivés, des gens qui veulent faire des choses et convaincus que nous sommes là pour faire la chose la plus valable sur la terre, construire l'Église de Jésus-Christ, ou disons être à son service pour qu'il puisse construire son Église à travers nous. Nous sommes donc très motivés, très actifs. Seulement, le problème, c'est que dans notre activité, il nous est très facile de mélanger ma valeur essentielle avec mon ministère. C'est-à-dire, je vaux quelque chose pour ce que je fais. Et ça, c'est déjà un piège. J'ai été utilisé par le Seigneur pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Je me valorise à cause de cela. Je suis bien parce que... Et c'est un problème. Vous vous rappelez quand Jésus a envoyé les 70, les 70, hein, je te traduis. Hein. Quand Jésus... Je sais que tu comprends, mais je t'embête. Hein. Quand Jésus a envoyé les 70, et quand ils sont revenus, vous vous rappelez de la réaction? Oh, c'est formidable! Même les démons nous sont soumis! Mais vraiment, ils étaient épatés de voir l'œuvre spirituelle à laquelle ils avaient participé. Et c'est bien! Jésus a envoyé pour faire ça, hein? Et Jésus dit, vous avez pas tort, les gars. Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. C'est extraordinaire, hein? Il leur a dit, néanmoins, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire, l'essentiel n'est pas ce que vous avez fait pour moi, mais ce que je fais pour vous. Votre valeur ne vient pas de ce que vous faites. Alors, jusqu'à là, on est d'accord, on a besoin d'entendre ça de temps en temps, mais on est d'accord. Ça, on l'accepte, parce qu'on est habitué à ça, et c'est vrai. J'ai besoin d'être rappelé de ça de temps en temps, mais enfin, on l'accepte. Mais le revers de cela, c'est que si je n'ai pas plus de valeur parce que mon ministère réussit, je n'ai pas moins de valeur parce que je vis un échec dans le ministère. Or, je ne dis pas du tout cela pour qu'on se complaise dans le péché. Il faut bien comprendre, parce qu'il y a un grand piège dans ce que je suis en train de vous partager. C'est qu'on prenne tout cela pour justifier notre péché. Et ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Quand il s'agit de péché dans ma vie, de péché dans mes attitudes, de choses comme ça, ça, le Seigneur veut le travailler et ça ne peut pas être utilisé pour sa gloire. Donc, ce n'est pas du tout cela. Mais quand il s'agit de constater un échec dans le ministère, ça arrive. Il y a des moments où ça n'avance plus. Si nous arrivons à mettre notre valeur essentielle dans la réussite du ministère, si nous n'arrivons pas à séparer ma valeur qui vient du fait que je suis aimé infiniment et inconditionnellement du Dieu vivant, si on n'arrive pas à séparer cela de ce que je fais pour lui, et normalement, j'espère en tout cas, sur ses ordres, j'aurai un problème. Ma valeur ne vient pas de ce que je fais, parce que sinon, on tombe tout de suite dans la question de mérite. Mais ça veut dire qu'un manque de valeur ne découle pas du fait d'avoir un échec. J'ai eu dernièrement à enseigner toute une série sur les petits prophètes, et c'est assez remarquable, en voyant les prophètes, de voir les différences de résultats. Vous prenez les prophètes juste avant l'exil, des prophètes qui ont prêché un très bon message, ou les prophètes qui ont prêché peu avant la chute du royaume du Nord, comme Amos. Des hommes dont on ne pourrait pas vraiment mettre en cause la qualité spirituelle. Et le résultat du ministère, c'est assez nul. Hein? Sans parler d'un Jérémie, bon lui il n'est pas dans les petits prophètes, mais c'est quand même dans la même période. Jérémie qui fidèlement, pendant des décennies, annonce la parole du Seigneur et qui ne voit pratiquement rien. Puis un siècle plus tard, il y a des problèmes dans le pays. Et Agé prêche. Dieu suscite le prophète Agé pour donner un message au peuple. Est-ce le temps pour vous de vivre dans des maisons lambrissées alors que ma maison est en ruine? Levez-vous, bâtissez, etc. Et quel est le résultat? Le peuple se consulte, il se repente, et dans 3 semaines, le chantier a repris. Oh, on aime tous être à la place d'un Agé. On n'aime pas être à la place d'un Jérémie. Mais est-ce parce que Agé avait un meilleur caractère, parce qu'il était plus spirituel, parce qu'il était mieux comme serviteur de Dieu? Pas du tout. Ça arrive, ça. On va facilement connaître des moments d'échec dans le ministère si, en même temps, le problème de difficulté dans le ministère devient une mise en cause de toute ma valeur essentielle. Je ne vaux rien parce que je n'arrive plus dans ce ministère. C'est que là, on risque une épreuve extraordinaire, qui sera plus qu'une crise de vocation, mais que ça mettra en cause tout ce que je suis, quoi. Et c'est pourtant un des risques qui découle du même caractère motivé qui permet la réussite, justement, dans le ministère. Une réussite qui n'est pas le résultat de ce caractère, mais qui est liée à cela dans le sens que le Seigneur équipe de ce caractère motivé les personnes qu'il envoie au ministère. Mais si le Seigneur t'a appelé au ministère tout en te mettant dans une situation où tu n'y es peut-être pour rien, où tu vas connaître des échecs, tu vas connaître des difficultés, parce que ça arrive. Tu t'es investi, tu t'es vraiment donné pour l'évangélisation et travailler avec les frères, et tu commences à voir une église naître, et puis t'es critiqué, l'église se divise, ça finit en miettes, et tu dis à quoi bon les 10 ans que j'ai investi dans tout cela, et que tu mets en cause ta valeur, et parfois on passe par là. C'est que c'est dur. Mais c'est un des pièges qui découle du même caractère qui permet la motivation, qui permet d'aller de l'avant. Et il nous faut prendre conscience de cela pour savoir, pas changer notre caractère, mais pour savoir utiliser ce caractère qui a ses avantages et ses désavantages à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ma motivation, c'est Dieu qui me l'a donné pour que je puisse accomplir quelque chose. Ma valeur ne vient pas de cela. Mais cette même motivation à faire des choses fait que je risque d'être très gêné quand rien ne se passe. Mais ça aussi, ça fait partie de ce que le Seigneur a peut-être prévu. D'ailleurs, Isaïe l'avait même dit à l'avance. On avait parlé un petit peu ce matin avec Alain, il nous a parlé un petit peu de la vocation d'Isaïe. Mais dans ce même texte, Dieu lui a dit, tu vas aller, tu vas prêcher et on ne va pas t'écouter. Au moins, lui, il était prévenu. Hein? Nous, on n'est pas toujours prévenu. On y va. On sort de l'institut, suscité par le Seigneur. Oui, le Seigneur m'appelle. C'est formidable pour l'évangélisation de la France, pour l'implantation de l'Église. Et on y va. Et on ne s'attend pas à ce qu'au bout de 20 ans, il n'y ait pas encore d'Église. Et que on se demande à quoi bon tout ce qu'on fait. Et autre chose, il y a un côté un petit peu moins noble de ce caractère qu'il faut vraiment savoir gérer, mais qu'on ne gère pas toujours. Il faut le savoir, même si on va essayer de le gérer, parfois il va avoir des dégâts. C'est que quelqu'un qui peut être utilisé, qui peut être sur les devants de la scène dans le travail du Seigneur, c'est normalement quelqu'un qui est relativement sûr de lui, relativement sûr de son message, relativement sûr de sa vocation, et qui prend facilement les situations en main. Quelqu'un qui, dans un certain sens, je ne le dis pas méchamment, mais quelqu'un qui domine facilement les situations. Maintenant, on peut dominer les situations parce qu'on a soif du pouvoir pour se valoriser. Ça, c'est pas bon, ça. Il n'y a rien de bon à dire de cette façon de faire-là. Hein. Ça, c'est pas mon caractère, c'est le péché. On est d'accord. Il peut avoir celui qui aime dominer simplement parce que dans son égoïsme profond, il veut que personne lui fasse obstacle, alors il veut le pouvoir pour qu'il puisse dicter à tout le monde ce qu'il doit faire, pour que lui, il arrive à faire ce qu'il veut. Ça aussi, c'est pas bon, ça. C'est pas un caractère. C'est un péché. Mais il y a aussi le fait que le Seigneur nous a donné certaines qualités. J'espère que chacun de nous puisse dire, j'ai compris un certain nombre de choses de ce que Dieu veut pour l'être humain. Sinon, je demande ce qu'on prêche. Or, est-on convaincu que c'est ça ce qu'il faut? C'est qu'on domine facilement les situations. Mais qu'est-ce qui arrive quand il y a plusieurs personnes ensemble qui dominent facilement les situations? C'est pas pour rien qu'il y a énormément, mais énormément, de conflits entre personnes dans le ministère. C'est un côté triste du ministère, mais c'est une réalité qu'il faut vivre. Moi, je suis entré dans le ministère assez jeune, 21 ans, dans le ministère en plein temps. Il y en a qui sont rentrés plus jeunes que moi, hein. C'était pas là que j'ai commencé à prêcher, à enseigner, mais c'est là où je suis entré dans le ministère à plein temps, 21 ans. Plein d'illusions sur les serviteurs de Dieu, sur les missionnaires. Et puis j'ai commencé à découvrir. Et puis j'ai vu les conflits que j'ai vécus. Et le pire, les conflits auxquels j'ai largement contribué. Parfois j'arrive à dire, mais Seigneur, t'es sûr que tu t'es pas trompé en appelant des gars comme moi? Et c'est là où il nous faut mettre en cause non ce qu'on est dans notre caractère essentiel, mais notre façon de vivre cela. Que j'ai une personnalité forte en face de moi qui est convaincue de ce qu'il pense, c'est pas un problème. Quelqu'un peut être convaincu. Moi, je pense qu'il faut ça. Bah, il a le droit de le penser. Il a même le droit de l'exprimer très fortement. Mais je suis encore responsable devant le Seigneur de choisir mes voies. Et moi, je dirais un de mes plus grands défauts, et en même temps une de mes plus grandes qualités, c'est que je suis assez sûr de moi. Il confirme, Gilbert, il confirme. C'est les deux. Je ne pourrais pas faire ce que je fais. Si j'étais là en train de dire, je me demande si j'ai le bon message, je me demande si je suis dans le bon travail, je me demande si c'est vraiment ça à quoi le Seigneur m'appelle, je ne pourrais pas faire cela. Mais en même temps, je me trompe comme tout le monde. Hein? Et je constate que ce problème que je vis avec mon caractère, ben, que je ne suis pas le seul dans la voie du Seigneur qui le vit. Et je connais des chers frères, des chères sœurs, qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur, et dont je ne mettrai pas du tout en cause leur utilité pour le royaume de Dieu, qui ont été critiqués, et parfois à juste titre, d'un caractère difficile à vivre. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'on devrait s'excuser de vivre tout ça, mais qu'on ne devrait pas s'en étonner au point de dire, ah ben, on est tous des bons à rien, c'est pas la peine. le même caractère qui a les avantages qui permettra d'aller de l'avant malgré l'obstacle, surtout dans un pays comme la France. Maintenant, le Seigneur peut se permettre de susciter d'autres types de personnes dans un pays où l'évangélisation, ça va tout seul. Il suffit d'annoncer « Jésus vous aime » et les gens viennent en courant pour dire « Ah, ça m'intéresse, parlez-moi de cela ». D'accord, je veux bien admettre que dans des situations comme ça, je peux utiliser d'autres personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment, il suscite un Élie, à un autre moment, il suscite un Élisée. D'accord. Mais, dans un pays comme la France et dans la francophonie européenne, c'est pas facile. Donc, ceux qui réussissent dans le ministère, c'est souvent des gens convaincus d'eux. Convaincus, ce qui n'empêche pas qu'on passe tous par des moments de sérieuse remise en question. Ça, on est d'accord. C'est un peu la contrepartie aussi. C'est que je suis convaincu et pourtant, je me demande, est-ce vraiment que le Seigneur m'appelle à cela? Est-ce vraiment que je suis en train de faire ce qu'il faut, etc.? D'autant plus que je sais très bien qu'il y a des aspects de ce que je vis qui ne sont pas simplement le caractère que j'ai. C'est mon péché, c'est-à-dire c'est la mauvaise façon de vivre ce caractère. Et ça, je le sais. Et ça, il faut savoir le remettre en question. Mais en même temps, il ne faut pas s'étonner, outre mesure, de rencontrer des conflits avec des gens. Ça ne met pas en cause l'engagement spirituel de celui que tu as en face. Ça ne met pas en cause ton engagement spirituel. Ça montre simplement que ce caractère motivé, déterminé, décidé, qui a ses avantages, demande un effort tout particulier à gérer quand on est ensemble. Et en même temps, c'est lié à cela, ce même caractère qui va provoquer facilement des affrontements avec d'autres qui ont à peu près le même caractère, fait que très facilement, je vais dominer d'une façon malsaine sur ceux qui n'ont pas ce caractère. Et il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de gens comme cela. Il y a plein de gens dans la société qui sont plus ou moins passifs, prêts à écouter, et puis d'accord, on y va, et qui vont subir le mauvais caractère. Enfin, on va dire, le côté mauvais du caractère du serviteur de Dieu. Et on a tous connu ça aussi. Et parfois, on l'a fait. C'est-à-dire que dans nos ministères, dans nos prédications, dans nos églises, si on a une église à charge, parfois on domine sur les gens et on n'en prend même pas conscience sur le moment. C'est que tellement convaincu de nous, il nous est particulièrement difficile de dire, attends, doucement, doucement, doucement. Toi, tu es convaincu du truc. Laisse au frère le temps d'en être convaincu aussi. C'est pas parce que toi, tu es convaincu, et peut-être même que tu as raison, mais c'est parce que tu es convaincu que tu as le droit de lui dire, tu ne réfléchis même pas, tu fais. Moi, j'ai connu ça parfois. Hein. On m'a dit explicitement, ce n'est pas à toi de chercher la volonté du Seigneur, tu fais ce qu'on te donne de faire, et puis c'est tout. Et cela de la part de responsables chrétiens. Est-ce qu'ils avaient raison ou pas dans ce qu'ils voulaient que je fasse? Ça peut se discuter. Mais ma réaction était, oui, mais moi j'ai besoin d'être convaincu que c'est la direction du Seigneur. Et en fait, ça a conduit à une rupture assez douloureuse avec une structure de travail. Parce que ce n'était pas que ce qu'ils voulaient que je fasse m'était tellement désagréable, mais c'était cette mentalité qui consistait à dire, nous te disons ce que tu as à faire, et toi, tu acceptes et tu ne réfléchis pas. J'apprécie beaucoup les gens qui savent ce qu'ils veulent. J'apprécie beaucoup les responsables spirituels qui poussent. Je peux le dire, et je n'ai pas honte de le dire ici devant lui, combien j'ai bénéficié dans mon ministère, dans mes jeunes années, du fait que souvent, dans plusieurs domaines, Gilbert m'a poussé à faire des choses pour lesquelles je ne me sentais pas prêt. Toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Oh, tu crois? Oui, je le crois. Bon, ben je l'ai fait. Tu ne savais peut-être même pas. Hein? Mais ton exemple, ton dynamisme a été utile. Ça, c'est très bien, ça. Mais ça, c'est tout à fait autre chose que celui qui dit « Tu vas le faire et tu ne réfléchis pas. » C'est pour ça que j'ai retrouvé ma place dans une structure et que je n'avais pas trouvé ma place dans une autre structure. Je ne mets pas en cause les personnes décidées, les caractères forts. J'apprécie ça. Mais je sais qu'il faut le gérer. Parce que il nous est facile, nous, de dominer sur d'autres de façon à en écraser quelques-uns avant même de s'en rendre compte. Et on se demande après pourquoi il pleure celui-là. Ouh là là, ils sont toujours en train de se lamenter. En fait, c'est toi. Moi? Ah ben, écoute, moi, j'ai rien fait. Ah, peut-être que si, quand même. Il faut tenir compte de cela, parce que notre caractère convaincu peut devenir une difficulté. Il faut savoir cela. Et il faut accepter non que ce que nous sommes soit mis en cause, mais que ce que nous faisons avec ce que nous sommes soit mis en cause. Il faut l'accepter. Que parfois, le caractère que j'ai, je suis ce que le Seigneur a fait de moi, mais ce que j'en ai fait, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Et je dois pouvoir accepter que ce soit remis en cause. Ta façon de faire là, c'est pas bon. Mais ça me coûte. Et si on ne sait pas faire cela, on va provoquer des crises et des souffrances inutiles. Un autre aspect du caractère du responsable spirituel qui peut jouer des tours, c'est que, bon, on connaît la stratégie moderne, hein, c'est très bien, on a des bonnes théories et à peu près toutes les œuvres se retrouvent dans ces mêmes théories. L'idéal, quand on veut faire un travail pour le Seigneur, c'est de le faire en équipe. Ça, on dit facilement, oui, l'époque du pionnier tout seul dans son coin, c'est fini, maintenant on veut travailler en équipe. Très bien. Mais la réalité du terrain est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers et que trop souvent on se retrouve seul. Et pourtant, on réussit. Pourquoi? Mais parce que cette situation fait un tri entre les gens qui sont capables de se débrouiller seuls et d'aller de l'avant, même si, ah, moi je souhaiterais bien avoir une équipe, et puis le bureau central me dit, oui, on va recruter, puis tu vas avoir une équipe, enfin en attendant, tu vas au boulot. D'accord, et puis attends l'année prochaine, et puis l'année prochaine, et puis l'année prochaine. D'accord. Et j'accepte ça. Personnellement, je veux que nos œuvres aient une vision dynamique qui cherche à s'étendre au-delà du confortable. Parce que si on dit d'accord, on a suffisamment de monde pour gérer cela, et ça on peut le faire confortablement, on reste là, on a une dynamique qui, à mon avis, est catastrophique et qui va forcément se casser la figure. Donc, je suis tout à fait d'accord quand on dit, écoute, on va faire cela, même si on n'a pas encore tout à fait tous les moyens humains, mais on va le faire, et puis le Seigneur pourvoira. Et puis, ceux qui réussissent dans cela, ce sont des gens capables de continuer, même quand ils sont plus ou moins seuls. D'accord. Mais la contrepartie de cela, c'est qu'on est justement souvent seul. Il est très, très, très difficile de vivre une crise qui déjà est douloureuse en soi. C'est encore pire, nettement pire, de le vivre quand sur le plan humain, tu es seul. Quand tu ne peux pas partager ça avec quelqu'un. Il est intéressant d'analyser la structure relationnelle dont l'être humain a besoin. Moi, j'utilise l'image d'une pyramide pour cela. Une pyramide, vous savez, il y a des rangées de pierres, et en bas, il y a beaucoup de pierres. Et puis, plus on monte, moins il y en a. Ben, les relations, c'est comme ça. en bas, c'est vrai que c'est pas très élevé, ça va pas très loin, mais on a beaucoup de relations relativement superficielles. Ah, bonjour, comment ça va, etc. Peut-être même des personnes où on connaît pas le nom, hein. Ça arrive, hein. Les personnes qu'on situe par rapport à un endroit, le marchand qu'on croise, le facteur qui vient, etc. On l'a jamais invité à manger, etc. Mais enfin, il y a une relation qui est là. Ça va pas loin, mais il y en a beaucoup comme ça. Puis il y a des relations qui vont un peu plus loin, mais là, il y en a forcément moins. Et puis des relations qui vont encore plus loin, où il y a encore moins. Et vers le haut de la pyramide, il y a quelques relations vraiment approfondies. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que justement, il faut savoir s'investir dans ces relations pour les avoir. Sinon, on ne les aura pas. Très souvent, pour le serviteur de Dieu, c'est dans le haut de la pyramide que ça coince. Pour ceux qui disent d'avoir des... Est-ce que vous avez des gens qui sont avec vous dans le ministère? Ah oui, des centaines. D'accord, super. Ça veut dire qu'à la base de la pyramide, elle est solide. Est-ce que tu as une poignée de confidents? Et pas que des gens de ta famille. Ah oui, ma femme, on partage tout. D'accord. Mais il y a des crises qui concernent le couple. Ce qui veut dire que si ils sont en crise, elle est dans la même crise que moi. Ça arrive, hein? Alors, est-ce que tu as des gens en dehors avec lesquels tu as passé beaucoup de temps? Et ça, c'est parfois dur, hein? Parce qu'il y a tellement à faire dans le ministère. Je n'ose pas, je ne justifie pas le fait d'investir tant de temps dans une relation pour que vraiment cette personne me connaisse à fond. Oh, parler du Seigneur, parler de la Bible et tout ça, oui, ça, c'est bon, ça. Hein? Mais je suis plus que ça, et toi, t'es plus que ça. Est-ce que tu t'investis dans des relations où les gens te connaissent? Mais vraiment, ils connaissent ta façon de penser, ils connaissent tes forces, ils connaissent tes faiblesses, et ils situent tout cela. Pour certains, la réponse est oui. Mais il faut savoir que c'est une faiblesse du même caractère qui nous permet de réussir dans le ministère. Si tu n'as pas ces relations privilégiées, c'est que, quelque part, tu vis le contrepartie du même caractère qui te permet de réussir. Je vais de l'avant, même si personne n'est avec moi, le Seigneur appelle, j'y vais, et puis je m'investis dans le travail, et puis il arrive une crise, et bon, à qui je pourrais parler de ça? Parce que, allons de l'avant, toujours occupé, seul, oui, mais j'ai pas construit ces relations-là. Hein. Ça, c'est encore un aspect de ce caractère qu'il faut savoir gérer. On parle de l'épreuve et de l'utilité de l'épreuve. Mais il y a des épreuves inutiles. Il y a des souffrances qu'on se crée, qu'on n'aurait pas besoin de se créer. Et si on peut gérer certains de ces aspects de notre caractère, on peut éviter de se créer des épreuves inutiles. Faites confiance au Seigneur. Il se débrouillera très bien pour nous donner les épreuves dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Hein. On n'a pas besoin d'en rajouter exprès parce que on ne sait pas s'il fera le nécessaire. Il se débrouillera très bien pour nous secouer, pour nous briser le nombre de fois qu'il faut et la manière qu'il faut. Mais c'est pas la peine que je rajoute à ma souffrance en m'isolant spirituellement, par exemple, ou en me comportant d'une façon à ce que ma personnalité convaincue devienne une façon d'écraser tout le monde autour de moi et que ça provoque des critiques qui n'auraient pas forcément lieu d'être. Là, on peut pas dire, oh ben, de toute façon, il paraît que la souffrance, c'est bon, donc le Seigneur m'apprendra à travers cela. Je dis pas que le travail du Seigneur ne peut pas se faire parce que c'est nous qui sommes à l'origine de la crise. Enfin, on n'est pas des masochistes spirituels à créer exprès des souffrances. Il y a aussi un aspect qui m'interpelle souvent avec les serviteurs de Dieu, parce que j'ai vu et j'ai vécu beaucoup de crises de vocation. J'en ai connu pour moi-même, notamment une. Il y avait une fois où c'était décidé, je quitte la France, je quitte le ministère, j'arrête tout. De toute façon, je n'avais pas pris cette décision seul. Il y avait des frères qui m'ont conseillé dans ce sens-là, en disant, toi, tu n'es pas bon pour le ministère, tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi, on ne veut plus te voir. Donc, oui, d'accord, j'accepte le conseil des frères, je m'en vais, quoi. La crise du ministère. Sauf que le Seigneur a décidé de diriger autrement, alors vous devez me subir encore ici en France. Mais, c'est dur à vivre. Et puis, j'en ai connu d'autres, pour d'autres personnes. Or, je constate que de par les qualités que nous avons, nous aimons contrôler les situations, prendre les choses en main. Et qu'on a souvent des qualités qui nous permettent de le faire. Mais la contrepartie de cela, c'est que quand on arrive dans une situation qu'on ne contrôle plus, souvent, c'est le plongeon extraordinaire. Au lieu de se décourager un petit peu en disant « Ah, ça ne va plus comme je veux », c'est que « Plus la peine. Je ne suis plus bon à quoi que ce soit. » Je l'ai vu. Pour des choses où, vu de l'extérieur, on dirait « Attends, tu en fais une montagne pour rien là. » Mais on arrive à dire « Est-ce que je suis bon pour le ministère ? Est-ce que je suis bon même à quelque chose moi-même ?» etc. Parce que on n'aime pas les situations qu'on ne contrôle pas. J'ai souvent été interpellé par le caractère de l'apôtre Pierre. Pierre, ce n'était pas son nom déjà, il ne s'appelait pas Pierre, hein, il s'appelait Simon. Pierre, c'est un surnom. Et à l'époque, personne ne s'appelait Pierre. C'est Jésus qui a donné ce nom. Hein. Toi, on va taper le caillou. Hein. Moi, j'étais menuisier professionnel autrefois. J'ai travaillé le bois. Le bois, c'est une matière que j'aime beaucoup. C'est bon, c'est noble, c'est chaud, on le façonne facilement, on fait des beaux objets, etc. La pierre, c'est beaucoup plus dur à travailler. Oh là, il faut sortir le marteau et le burin, et puis il faut y aller. Hein. C'est dur à travailler. On ne le façonne pas facilement. Et puis, il faut être persévérant, parce que arriver à quelque chose avec de la pierre, mais une fois que c'est formé, ça résiste, c'est du solide. Et je pense que c'est pour ça que Jésus a donné ce surnom à Pierre, parce que ça correspond à la personnalité. Hein. On voit à travers les évangiles, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est un meneur d'hommes, il y a beaucoup de qualités, Pierre. Et on voit que c'est aussi celui qui a fait le plus de gaffe, hein. Voilà, à travers les évangiles, c'est lui qui a le plus de bêtises en mètre carré dans les évangiles. Hein. Attends, il monte sur la montagne de la transfiguration. Pour une fois, il est là pour observer, c'est tout. Jésus dit, venez les gars, je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous ne me connaissez que dans la chair, et je vais vous montrer quelque chose. Vous n'en parlerez qu'après, parce que vous ne comprendrez qu'après. Mais on va vivre des choses où vous allez voir un aspect de ma personne qui va vous mettre en avant la faiblesse de l'humanité, c'est-à-dire les événements de la trahison, de la condamnation, de la crucifixion et tout cela. Et je veux vous montrer que je suis beaucoup plus que tout ça. Que ça a une raison d'être, mais je suis plus que tout cela. Donc, il monte sur la montagne et Jésus révèle une partie de sa gloire. Et les disciples sont là pour observer. Mais Pierre, c'est le gars qui doit prendre les situations en main. Il n'a rien à dire, mais cause quand même. Ah ben tiens, c'est bien d'être ici, on va construire des tentes, une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Il doit prendre la situation en main. C'est même marqué dans le texte, il disait ça parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas quoi dire, mais il fallait dire quelque chose. Parce que c'est Pierre. C'est toujours celui qui est volontaire, celui qui va de l'avant. C'est lent à travailler tout cela. Pierre, c'est un meneur d'hommes, c'est un gars qui prend le contrôle des situations, qui... C'est extraordinaire, ce gars. Et puis, il a vécu une crise. Une crise qui l'a attaqué jusqu'au plus profond de sa personne. Lui, absolument convaincu de Jésus. Ça ne se mettait pas en cause. Il est convaincu de Jésus. Il est convaincu que Jésus est le Messie. Il est convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Il est convaincu que ça vaut la peine d'être avec Jésus, même s'il faut mourir. Et il a découvert la limite de sa personne. Et ça fait mal. Ça nous fait toujours mal de découvrir nos limites et de découvrir là, j'étais pas assez fort. Et il arrive à mentir, à jurer devant une servante pour sauver sa peau. Et vous imaginez ce qu'il a dû vivre quand, après cette démonstration extraordinaire de lâcheté, il voit Jésus crucifié. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander pardon. Et là, il est mort. Puis le troisième jour, Jésus est ressuscité. Ah oui, nouvelle extraordinaire, l'œuvre de Jésus va de l'avant. C'est formidable. Mais moi, je suis disqualifié. Dans Jean 21, il y a un texte très intéressant. Il y a 7 disciples qui sont ensemble en Galilée. Et Pierre est parmi eux. Et Pierre dit, je vais pêcher. Pas je vais pêcher, hein, c'est pas ça, mais il va à la pêche. Maintenant, si moi, après une période très mouvementée comme ça, je dis, attends, je vais pêcher, je vais à la pêche. C'est que j'ai envie de me détendre un petit peu, il faut respirer, il faut voir autre chose. C'est pas ce que Pierre est en train de dire. C'est son métier. Et puis on voit comment il s'y prend, hein. Là, c'est avec tout le tralala, hein. Il est en train de dire, je crois toujours en Jésus. Je veux que son royaume vienne sur la terre. Mais je ne peux pas en faire partie. Je reprends le boulot. Et même là, il est toujours un meneur d'hommes. Les autres disent, on va avec toi. Il ne peut pas s'empêcher d'être un meneur d'hommes. Lui, il pense simplement à annoncer à une décision aux autres. Écoute les gars, j'arrête là. Eh ben nous aussi. Parce que, en fait, si toi tu l'as renié, c'est parce que tu étais là. Nous, on n'a pas eu l'occasion parce qu'on était encore plus large que toi, parce qu'on a fait la fuite. Hein. Alors, on reprend le boulot. Et c'est intéressant que Jésus va refaire, avec une petite nuance de différence, il va refaire la même vocation, le même miracle que ce qu'il avait fait plusieurs années avant. Quand ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et le matin, Jésus dit, est-ce que vous avez quelque chose? Non, on n'a rien. Mettez les filets du côté droit de la barque, ils vont prendre quelque chose d'extraordinaire. Il refait toute la scène. La seule différence, qui pourrait être un détail, mais je crois que c'est symbolique, et je crois que c'est pas pour rien que le texte le relève, c'est que cette fois-ci, les filets ne vont pas casser. Façon, petit clin d'œil du Seigneur pour dire, malgré tout, il y a eu du progrès. Vous n'êtes peut-être pas convaincu en ce moment parce que vous voyez surtout vos défauts, mais il y a un plus là. Mais dans le fond, il est en train de dire, je ne vous ai pas renvoyé les gars. J'ai encore une place pour vous. Et puis c'est là où il se retrouve seul à seul avec Pierre, parce que c'est lui, le meneur de tout ça. Hein? Est-ce que tu m'aimes? Ah oui Seigneur, je t'aime. Bon, vous savez qu'il y a des nuances extraordinaires dans le texte original, on va pas en parler maintenant, mais Jésus lui dit, paie mes brebis, j'ai un ministère pour toi. Pierre est le gars qui contrôle les situations, et tant qu'il contrôle les situations, c'est bien. Et quand il arrive dans une situation qu'il ne contrôle plus, et qu'il constate ses faiblesses, et qu'il constate son péché, il faut appeler ça par son nom. Alors là, au lieu de dire, bon, c'était pas bon, il faut me repentir et reprendre. Alors là, c'est le plongeon total. C'est le revers du même caractère qui fait que ça va être le gars qui va prendre l'équipe d'apôtres en main, qui va mener cela et qui va être puissamment utilisé par le Seigneur. Mais ce même caractère fait que quand il est dans des situations qu'il ne contrôle pas, ben, il a tendance à plonger. Et d'ailleurs, le Seigneur le prévient, juste après cet incident. Sache qu'il viendra un jour que tu te retrouveras dans une situation que tu ne contrôles plus. Et là, ce n'est pas raconté dans la parole, mais l'histoire de l'Église nous le raconte avec, je crois, une fidélité sur laquelle on peut compter. Il a été fidèle, parce qu'il a fini par apprendre la leçon. C'est pour dire que malgré notre caractère, on peut apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Heureusement, hein. Mais il faut le gérer, ce caractère convaincu, meneur, décidé, débrouillard, volontaire. Il y a beaucoup d'avantages dans ce caractère. Mais très souvent, la crise de vocation, qui est souvent une des souffrances les plus profondes pour le serviteur de Dieu, très souvent, cette crise de vocation résulte partiellement ou même totalement, du fait de ne pas savoir gérer ce caractère que nous avons, qui a ses avantages, mais qui a ses désavantages. Jacques Dubois n'avait pas tort quand il a dit que c'est quand même un sale caractère parfois. Je le constate. Et combien de fois j'ai voulu être autre chose que ce que je suis. Ah, si j'étais comme ça, si j'étais comme ça, si j'étais comme ça. Là, le Seigneur pourrait m'utiliser, plus à sa gloire. Là, je ferais moins de dégâts autour de moi. Pas sûr. Je ferais d'autres dégâts, c'est tout. Parce que les autres caractères ont l'air des avantages aussi. En conclusion à nos réflexions, j'aimerais, comme j'ai dit, mon but cet après-midi n'est pas de nous excuser notre péché. Rien de cela, mais ayons l'honnêteté d'accepter de la part du Seigneur des choses où il dit ça, ça doit changer dans ta vie. C'est difficile, mais il faut l'accepter. Si on n'est pas prêt à ça, ça ne marche plus. Ça, c'est clair. Mais dans le caractère qu'on est, ce qu'on est dans l'essentiel de sa personne, on est ce qu'on est. On est le résultat d'un tas de choses que le Seigneur a mis en place pour nous former, pour faire de nous ce que nous sommes. La vocation, ce n'est pas uniquement que le jour où le Seigneur t'a dit, toi, viens, suis-moi. C'est aussi tout ce qu'il a fait pour te préparer à cela, y compris la formation de ton caractère. Et ce caractère, ben, il est ce qu'il est. Il a des avantages incontestables. J'apprécie de travailler avec des gens décidés, des gens qui sont capables, des gens qu'on peut dire, tiens, voilà, il y a une chose à faire, moi je suis volontaire, vas-y, et qu'on n'a pas besoin de tout contrôler. Vas-y, c'est bien, c'est formidable. J'apprécie d'être entouré par des gens comme ça. J'apprécie de pouvoir m'inscrire dans la vision des gens comme cela. Mais je constate aussi que parfois ce caractère que j'ai aussi me joue des tours. J'accepte le caractère tout en disant, d'accord, c'est à gérer. Il faut être conscient des risques de ce caractère pour pouvoir en tenir compte. Parce que sinon, je risque très facilement de vivre les défauts de mes qualités. De toute façon, on va le faire. Mais on le fera encore plus. Dans le fond, ce qui nous disqualifierait du ministère, si on devait être disqualifié du ministère, ce ne sont pas les défauts, si on va appeler ça comme ça, qui découlent de notre caractère en soi. Ce qui nous disqualifierait du ministère, c'est le refus du brisement qui permettra au Seigneur d'utiliser ce caractère, qui a ses désavantages et ses désavantages. Il a ses avantages et ses désavantages, mais c'est de la pierre. Et ça, il faut y aller pour le casser. Hein. On ne taille pas de la pierre avec un opinel. On le taille à coup de burin. Et c'est pour ça que le Seigneur doit souvent utiliser les grands moyens avec nous. Mais ce n'est pas ça qui nous disqualifie. Il est tout à fait prêt à travailler avec de la pierre. Ce qui nous disqualifierait, ce n'est pas le fait de dire « j'ai la tête dure », mais le fait de dire « je refuse qu'on travaille ma tête dure ». Le refus de ce brisement qui permettrait au Seigneur de travailler ce caractère. Quelque part, ça revient à dire ce qui ferait que je ne serais pas efficace dans le ministère, ce n'est pas mes faiblesses, mais justement le refus de ces faiblesses. Parce que moi, j'aimerais bien être efficace dans le ministère, réussir dans le ministère, servir le Seigneur, voir un tas de fruits à mon ministère à cause de mes qualités. J'aimerais être un bon prédicateur, j'aimerais être un bon serviteur, j'aimerais être un bon pasteur, j'aimerais être bon dans tout pour que le Seigneur puisse m'utiliser. Et je constate que très souvent, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. J'ai bien retenu une phrase que Jean-Jacques nous a lancée il y a quelque temps, je ne sais pas si c'était au dernier répit ou l'année d'avant, juste comme ça, il avait dit en passant à un moment donné, mais je l'ai retenu. Parfois notre plus grande faiblesse, c'est que nous sommes trop forts. Je dis, ça c'est moi ça. Parfois ma plus grande faiblesse, c'est que je suis trop fort. Et que je veux servir le Seigneur par ma force, par mes qualités. Plutôt que de dire, Seigneur, le caractère que j'ai a ses avantages et ses désavantages. En soi, ce n'est pas positif ou négatif. Ça correspond à certaines situations et pas à d'autres. Ce qui montre les situations pour lesquelles le Seigneur m'a préparé, c'est tout. Mais ce qui sera un problème, c'est de refuser les faiblesses que j'ai en voulant que la réussite du ministère vienne de mes qualités. Parce que ça voudrait dire que je veux qu'il y ait une réussite qui vienne de moi. Or, la réussite vient du Seigneur malgré nous. Jésus dit à ses disciples, quand tu auras fait tout ce que je t'ai demandé de faire, dis-toi bien que tu es un serviteur inutile. Ce que tu fais, c'est par la grâce du Seigneur, c'est pas par tes qualités. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. On doit apprendre à accepter cela. Tu as des faiblesses, tu en es conscient, tu as été critiqué si souvent. Là, les frères et les sœurs ne nous ratent pas, hein. Ils nous remettent constamment devant nos défauts, pas forcément dans une bonne disposition, mais ça peut être utilisé par le Seigneur quand même. D'accord, mes faiblesses sont là, mes défauts sont là. Malgré tout ça, le Seigneur m'a appelé à son service. Je ne sais pas exactement pourquoi. À mon avis, il aurait pu choisir de plus qualifié que moi. D'ailleurs, je constate autour de moi qu'il l'a fait. Mais je constate qu'il m'a appelé aussi. Et qu'il ne m'appartient pas de dire, tu m'as appelé, mais j'y vais pas parce que je suis pas bien. C'est ça ce que Pierre avait fait, à la fin. Et Jésus a dû renouveler cet appel en disant, malgré tes défauts, j'ai une place pour toi. Ne te décourage pas complètement. Le problème de manque de maturité, le problème d'utilité dans le ministère du Seigneur, ce n'est pas nos faiblesses ou nos défauts. C'est le refus du brisement, c'est le refus de ces faiblesses qui ne veut pas que le Seigneur travaille en nous et travaille à travers nous malgré nos faiblesses. Quelques réflexions, on pourrait en rajouter d'autres, mais quelques réflexions sur le caractère qui est trop souvent à l'origine de beaucoup de crises et de beaucoup de souffrances. Pour que le Seigneur puisse nous aider à mieux gérer ce caractère et à éviter ainsi un certain nombre de crises dont on n'a pas besoin et dont l'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin. Merci pour votre écoute.